Bienvenue à Festin d'idées, un podcast qui explore la philosophie et les pratiques d'une éducation Charlotte Mason. Je m'appelle Fanny.
Et moi, c'est Annie.
Merci de vous joindre à nous pour ce 18e épisode, le premier de notre deuxième saison. Nous revoici après une longue pause estivale. Nous sommes super excités à l'idée de continuer la série sujet par sujet à la Charlotte Mason, et nous savons que plusieurs d'entre vous l'êtes aussi. Nous avons eu la joie de jaser avec plusieurs d'entre vous, soit dans des événements ou par courriel, et ce fut un plaisir de voir votre engouement pour la pédagogie Charlotte Mason, et nous savons que la suite de cette série est attendue avec impatience.
Par contre, nous tenions à vous mettre en garde du danger qui nous guette lorsque nous écoutons une série comme celle-ci. Celui de voir une méthode ou une pédagogie comme un sac à outils ou un bag of tricks, comme dirait Charlotte Mason. Une pédagogie dénudée des principes qui sous-tendent ses pratiques. C'est comme lire une liste d'ingrédients d'une recette sans en lire la préparation. Il y a de fortes chances que votre gâteau ne lève pas si vous ne suivez pas les étapes comme il faut. Ce que nous vous présentons ici n'est qu'un extrait de sa philosophie éducative et il est pris hors de son contexte pour vous en présenter les éléments, un à un. La façon la plus efficace de vous équiper pour faire une éducation à la Mason demeure de lire ses livres qui ne sont pour l'instant qu'en langue anglaise.
Bon, ceci dit, il nous fait bien sûr plaisir de vous présenter ce tout nouvel épisode. Voici le programme des deux prochains épisodes. Nous allons continuer notre étude de l'acquisition de la langue. Dans cet épisode-ci, nous couvrirons tout ce qui se rapporte à la copie, à la transcription, à la dictée. Dans notre prochain épisode, nous vous parlerons de grammaire et de composition. Après avoir vu comment s'acquiert une langue en commençant par les oreilles, la langue et les yeux, nous sommes maintenant rendus à la portion main. Nous voici repartis pour une nouvelle saison. Bonne écoute!
Pour communiquer, on peut parler, gesticuler ou écrire. Écrire est souvent plus pratique dans certains contextes ou pour certains buts, mais aussi parce qu'il y a des choses que nous ne souhaitons pas dire. Le besoin d'écrire est une réponse naturelle des enfants après des années de lecture de récits écrits par les autres. Ils ont, à leur tour, besoin de s'exprimer. Ce ne sont pas tous les enfants qui voudront écrire des romans ou de la poésie, mais tous comprendront éventuellement comment coucher des mots sur du papier.
Écrire est également une façon de traiter l'information de nos pensées, une façon de jongler avec elle. Écrire nos pensées nous aide à approfondir nos connaissances parce qu'en écrivant, on est souvent amené à se poser des questions et à pousser notre réflexion sur le sujet. C'est en écrivant que nous repoussons les limites de notre créativité.
Puis écrire, c'est aussi utilitaire et nécessaire. Pour chacun d'entre nous, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on pense aux emails, aux cartes de souhaits, aux listes, des présentations à préparer pour le travail, la liste pourrait être infinie.
Oui, puis j'ai vu aussi dernièrement un article qui disait que écrire à la main était plus cathartique, je crois, est le mot pour exprimer nos émotions que de juste écrire ce qu'on ressent sur l'ordinateur. Ça ne faisait pas du tout le même effet sur le cerveau. Donc, on voit qu'écrire à la main a encore son utilité, même dans notre ère super informatique.
Mm-hmm.
Bon, ceci dit, quelles étaient les raisons pour lesquelles Mason enseignait la copie? Elle est assez claire à ce propos dans ses volumes. D'ailleurs, les citations qui suivent, sauf indication contraire, ont été prises dans le volume 1, soit celui de Home Education, entre les pages 233 et 240. Si vous choisissez de suivre votre propre programme ou façon de faire, libre à vous, mais ces principes devraient vous guider si vous souhaitez bénéficier de la sagesse de Charlotte Mason.
Je vais commencer par vous lire une première citation. On ne devrait pas demander à un enfant de faire une tâche qu'il n'est pas capable de faire parfaitement. Et on devrait automatiquement s'attendre de lui qu'il rende un travail parfait. Par exemple, si on lui demande d'écrire une série de traits et qu'on lui permet de nous rendre une page de traits irrégulièrement espacés et en pente irrégulière, son intégrité morale est compromise parce qu'il aura eu un passe-droit en n'ayant pas fait de son mieux. Au lieu de lui demander une page entière de traits, ne lui en assignez que 6. Exigez que ses traits soient parfaitement exécutés, espacés de façon régulière et inclinés uniformément. S'il y en a un qui n'est pas parfaitement exécuté, demandez-lui de vous montrer en quoi il n'est pas parfait et laissez-le réessayer. S'il n'y arrive pas la première journée, laissez-le essayer le lendemain et le surlendemain. Lorsqu'il arrive enfin à faire 6 traits parfaits, célébrez l'occasion. Laissez-le ressentir un sentiment de triomphe. Que tout ce qu'il tente de faire soit bien fait, que ce soit de peindre, de dessiner ou encore de fabriquer des choses. S'il construit un château de cartes et qu'il est instable et branlant, il devrait ressentir de la honte. Dans le même ordre d'idées, il devrait terminer tout ce qu'il commence. Il devrait rarement être autorisé à démarrer un nouveau projet tant que le dernier n'est pas terminé. On y voit ici des principes de développement de l'intégrité morale de l'enfant, du sens de la beauté, de la fierté pour le travail accompli, d'auto-évaluation de son travail, de persévérance, de résilience, de courage, de force de caractère. L'idée n'est pas de pousser l'enfant vers un perfectionnisme démesuré, mais bien de s'assurer qu'il peut bien accomplir ce qu'on lui demande et de le pousser à toujours faire de son mieux, et aussi de lui faire comprendre qu'il est capable de se dépasser et de réussir. Nous voulons qu'il puisse ressentir cette joie de réussir ou le malaise de ne pas avoir fait son mieux.
Voici maintenant une deuxième citation. On pourrait en dire beaucoup sur l'enseignement de l'écriture, mais je n'ai que quelques conseils à offrir. Tout d'abord, l'enfant doit avoir le sentiment d'avoir parfaitement exécuté une tâche à chaque cours, même s'il ne s'agit que d'une lettre ou même d'un seul trait. La leçon devrait être courte. Elle ne devrait pas durer plus de 5 ou 10 minutes. La facilité à écrire vient avec la pratique. Mais cela devrait être porté à plus tard. Pour le moment, ce qu'il faut éviter, c'est l'habitude du travail négligé fait à la va-vite. Côté principe ici, on voit que pour Mason, la fierté ou le soulagement d'exécuter parfaitement une tâche à chaque cours est nécessaire à la motivation de l'enfant. Parce que ça leur donnera un sentiment de fierté, d'accomplissement. Et la longueur des leçons est aussi importante. Les enfants étant tous des personnes différentes, avec des forces et des faiblesses uniques, il se peut qu'un enfant décide de bâcler son travail pour finir rapidement, et un autre sera écrasé par le poids de la perfection exigée. Mais ça ne le savait. Et donc, il insiste sur des leçons courtes et donner la satisfaction d'une chose, aussi petite soit-elle, par leçon.
Et je continue ici avec les mots de Mason. Pour bien épeler, on doit avoir la capacité de voir le mot et d'en imprimer une image photographique dans son esprit. C'est une compétence et une habitude qu'il faut développer chez l'enfant dès le début.
La beauté de la méthode Mason est qu'elle ne se contredit pas. Ce qu'elle affirme ici, elle l'a déjà mentionné dans l'apprentissage de la lecture. L'habitude de voir un mot dans son esprit est importante. Trop souvent, les enfants, à force de voir un mot dans le même contexte, reconnaissent les premières lettres et devinent le mot au lieu de le lire. Et donc, il sera très difficile pour un enfant de l'épeler s'il ne le voit pas vraiment.
Donc, en résumé, nous devons emmener l'enfant à développer une fierté du travail, à rechercher le travail soigné. Nous devons garder les leçons courtes et agréables pour l'aider à développer l'habitude de prendre des photos de ce qu'il copie pour faciliter son apprentissage de l'orthographe et de la lecture par le fait même.
Voyons maintenant comment il s'y prenait pour enseigner la copie, qu'on pourrait aussi appeler transcription. Habituellement, l'apprentissage de l'écriture, la formation des lettres majuscules et minuscules, se fait indépendamment de la copie, mais pour Mason, ils s'apprennent en même temps. Elle nous dit « Un enfant devrait s'exercer à la copie de lettres individuelles avant de commencer à écrire. Il peut commencer par copier les lettres majuscules les plus simples, celles avec des lignes droites et des courbes simples. Lorsqu'il peut copier les majuscules avec confiance, il peut passer aux lettres minuscules. Il doit écrire avec un style italique, mais de haut en bas plutôt que de manière oblique. Nous vous parlerons de ce style italique-là plus tard dans notre épisode. » Elle termine en disant « Il devrait écrire aussi simplement que possible et en grand format. »
Maintenant, pour ce qui est des étapes de l'enseignement de l'écriture. Le trait droit utilisé pour faire des lettres doit être appris en premier, puis le trait courbé, comme dans une courbe en S. Ensuite, on enseigne la graphie des lettres avec une grande courbe simple, soit le N, le M, le V, le W, le R, le H, le P, le Y. Puis les lettres qui combinent des courbes telles que le O, le A, le C, le G, le E, le X, le S, le Q. Puis, les lettres en boucle et irrégulières comme le B, le L, le F, le T. On ne s'attend qu'à une seule lettre parfaite formée par jour. Le lendemain, vous devez faire apprendre une lettre similaire qui utilise les mêmes éléments pour que l'élément devienne familier. Ensuite, on ajoute la copie de mots de 3 ou 4 lettres en reliant les lettres déjà apprises ensemble, comme par exemple « can » ou « sac ». Le but de chaque leçon est d'écrire le mot une fois, chaque lettre étant sans faille. À ce stade, il est préférable d'utiliser de la craie et un tableau plutôt que du papier afin qu'il puisse effacer autant qu'il le souhaite, jusqu'à ce que ce qu'il a écrit le satisfasse.
On n'y pense pas, mais la motricité fine nécessaire pour tenir un crayon et le développement des muscles de la main, qui se fatigueront rapidement au début, sont deux facultés à travailler. Les enfants n'ont pas tous la même rapidité de développement, mais on peut tous les guider en respectant leur rythme. Pour ce faire, on peut leur permettre d'écrire dans les airs, dans du sable, avec une craie, sur un tableau blanc, tout ce qui permet à l'enfant d'apprivoiser les mouvements contrôlés de sa main.
Il y a peu à dire sur les étapes ultérieures. Si l'enfant commence par ne faire que des lettres parfaites et qu'il n'est jamais autorisé à en faire des négligés, il fera le reste lui-même. Ne vous inquiétez pas de l'écriture magnifiquement stylisée. Au fur et à mesure qu'il écrit, son propre caractère personnalisera son style d'écriture manuscrite. Mais son caractère n'est pas encore développé pour autant.
Elle continue en disant « Ne posez devant lui que des exemples soigneusement écrits qu'il pourra copier et assurez-vous qu'il recopie le modèle fidèlement. Sa leçon d'écriture ne devrait pas être une page complète de copie, ni même un nombre défini de lignes. Au lieu de cela, on ne devrait lui demander qu'une seule ligne, recopiée de façon exacte, caractère par caractère. Il lui faudra peut-être beaucoup d'essais avant de réussir une ligne parfaite. »
Ne forcez pas un enfant à écrire petit, mais en même temps, il ne devrait pas travailler trop dur pour écrire des lettres géantes. Une taille moyenne devrait être utilisée jusqu'à ce que l'écriture lui vienne plus facilement. Un enfant qui écrit petit peut facilement prendre l'habitude de gribouiller de manière irrégulière et cette habitude sera difficile à briser. Comme pour tout le reste, le travail de l'enseignant n'est pas seulement d'enseigner la bonne chose, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises habitudes.
On n'a pas encore fait d'épisode sur les habitudes, mais clairement, c'est quelque chose qui va venir parce que c'est quelque chose dont Mason parle énormément. Ici, elle nous parle de l'importance des bonnes habitudes, d'empêcher la formation de mauvaises habitudes parce qu'elles vont être plus difficiles à corriger. Et c'est quelque chose pour laquelle on doit toujours être attentif en tant que maman. Ça fait partie de notre rôle d'enseignant.
On en avait glissé un mot dans l'épisode sur les trois outils où on parlait de l'atmosphère, discipline, vie comme outils qu'on peut utiliser en tant que professeur, mais c'est vrai qu'on devrait peut-être élaborer parce que les habitudes étaient clairement quelque chose de très, très important dans une éducation Mason. Mais toutes les pratiques qu'on explique ici contribuent à bâtir les bonnes habitudes pour les enfants.
Ce qui suit est un petit peu particulier. Mason aimait le beau. Elle avait un sens de la beauté développée et pour elle, c'était important de ne présenter que ce qui était esthétiquement beau aux enfants. Dans ses programmes et livres, elle proposait donc le style de calligraphie, le style d'écriture de Mme Monica Bridges. Et elle en parle ainsi. Un nouveau style d'écriture. Il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une dame italienne qui était en train d'élaborer un système de calligraphie pour enfants. Afin d'élaborer sa technique, elle s'est basée sur d'anciens manuscrits italiens et autres. Ce type de livre est nécessaire, car les cahiers d'exercices de copie ordinaire actuellement utilisés sont peut-être clairs et méticuleux, mais le texte n'est pas raffiné. Mais maintenant, la dame Monica Bridges, épouse du poète Robert Bridges, a terminé le projet et ce livre, A New Handwriting, constituera une ressource pour les enseignants afin d'enseigner aux enfants un style d'écriture qu'ils voudront apprendre, parce qu'il est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on appellerait ce style d'écriture-là l'écriture italique. Donc, les enfants s'adaptent à cette nouvelle écriture avec une rapidité surprenante, même ceux qui ont une écriture laide. Mason m'impressionne toujours avec ses mots clairs et directs. Donc, une écriture laide, vous voulez corriger ça? Voici A New Handwriting pour vous.
Surtout pour tous ceux qui ont déjà vu l'écriture de Mason elle-même.
En effet, quand c'était ses propres notes, c'était tellement des gribouillis.
Mais quand on écrit pour nous-mêmes, c'est pas la même chose que quand on écrit une lettre pour quelqu'un. On se force un petit peu plus pour quelque chose d'officiel.
Elle fait quand même l'éloge du beau. Elle nous dit comment utiliser cette nouvelle écriture. Ce que nous trouvons le plus efficace pour enseigner le livre de Mme Bridges est de pratiquer chaque exemple de lettre directement à partir des modèles, d'abord au tableau, puis au crayon, et enfin au stylo. Après un certain temps, les enfants s'efforceront de transcrire de petits poèmes et autres dans un joli style italique.
Dans les programmes qu'on trouve encore, ce style d'écriture-là est utilisé jusqu'au secondaire. Donc, les enfants étaient poussés à utiliser cette écriture italique-là, pas juste quand ils apprenaient à écrire, mais tout au long de leurs études. Si vous souhaitez voir à quoi ressemblait ce style, un hybride entre l'écriture script et cursive, nous vous mettrons un lien vers les images des exemples du style de Bridges.
Après la copie de lettres vient ensuite la copie de mots et de phrases.
On n'en est pas encore à la dictée parce que la transcription se fait en regardant le mot. On invite bien sûr l'enfant à regarder le mot dans son entièreté et à essayer de le mémoriser au lieu de le copier lettre par lettre. Mais on le prend à son niveau et on l'emmène éventuellement à transcrire sans lever les yeux vers le mot à chaque nouvelle lettre. Cette façon de faire est l'une de ses premières leçons d'orthographe. À 8 ou 9 ans, le meilleur moyen d'apprendre à écrire n'est pas d'écrire des lettres ou des dictées, mais de transcrire lentement et de belle façon. A New Handwriting de Monica Bridges fonctionne bien pour cela, bien que certaines des lettres les plus ornées puissent être laissées de côté. La transcription, qui est la copie d'un texte un mot à la fois, devrait être la première leçon d'orthographe pour un enfant. Les enfants doivent être encouragés à regarder un mot, à imaginer une image de ce mot dans leur esprit les yeux fermés, puis à l'écrire de mémoire.
Une autre des pertes de Mason se trouve dans ses instructions sur le contenu de la transcription. Elle nous dit « Les enfants devraient transcrire leur passage préféré. » S'ils sont autorisés à choisir le matériel à transcrire, les enfants apprécieront leur travail et seront plus fiers de ce travail. Il est préférable de ne choisir qu'un vers d'un poème préféré à l'écriture du poème complet, car l'enfant risque de se lasser de l'exercice et du poème avant la fin du projet. Mais ils aimeront leur propre livre contenant les vers qu'ils ont eux-mêmes choisis. Elle parle ici d'un cahier contenant tous les exercices de transcription contenant les vers choisis par l'enfant. Une formule toute simple, mais qui nous assure la coopération de notre enfant. Il y a un avantage certain à aller avec un programme de copies de passages célèbres d'œuvres sélectionnées, de versets ou de dictons qui augmentent en difficulté d'exercice en exercice. Mais si votre enfant est démotivé ou manque d'intérêt, la solution pourrait être de lui demander les passages que lui voudrait copier et écrire dans sa mémoire pour le long terme.
Pour la forme 2 maintenant, Mason recommande de copier des passages de poésie ou de littérature. Et pour la forme 3, des passages de littérature, mais également des autres livres de leçons écrits en prose. Ce ne sont que des propositions, allez-y avec l'intérêt de votre enfant. Ces passages ne devraient pas être plus longs que 2 lignes, peu importe la forme, mais on continue à exiger qu'ils soient faits parfaitement.
Par contre, en forme 4, la copie n'est plus à l'horaire et les enfants doivent la faire par eux-mêmes, possiblement l'après-midi, en copiant leur passage préféré dans leur Commonplace Book, le livre dont on parlait un peu plus tôt, qui va regrouper tous les passages qu'ils souhaitent lire et relire et relire.
Dans ce prochain passage, Mason y va de recommandations plus pointues qui sont quand même intéressantes à considérer. Le papier à interligne double doit être utilisé au début pour encourager les enfants à écrire des lettres plus grosses. Les enfants ont très envie d'écrire très petit, mais une fois qu'ils ont pris l'habitude d'écrire petit, il est plus difficile de les emmener à bien écrire. Le fait de sentir que leur écriture est belle et que le texte qu'ils copient a une beauté littéraire les aidera à prendre plaisir à transcrire. Il ne faut pas consacrer plus de 10 à 15 minutes aux premières leçons d'écriture. Si elles durent plus longtemps, les enfants seront fatigués et leur écriture deviendra peu soignée. De toute façon, en 10 à 15 minutes, on a amplement le temps d'écrire 2 à 3 belles lignes, puis d'apprendre l'orthographe de ces mots-là par la bande. Mm. Parlons maintenant de la dictée.
Oui, la dictée est une suite logique de la progression de la copie, puis elle est ajoutée vers la forme 2, donc vers 9 ans. Mais ça n'aimait pas les listes de mots à apprendre par cœur, comme on sait que nos écoles ici au Québec aiment beaucoup, ou les règles d'orthographe qui avaient tellement d'exceptions qu'elles se contredisaient lors de la leçon suivante. C'était déroutant pour les enfants. Et nous croyons que l'exemple suivant d'une leçon provenant d'un article du Parents Review est un bon exemple de dictée à la façon Mason. On va vous donner le lien d'ailleurs sur notre site Internet si vous voulez aller le lire par vous-même dans la langue originale. Pour aider à la compréhension de ce qui vient de l'article en tant que tel et ce qui sont nos propres ajouts, Annie va lire la leçon et moi j'ajouterai nos précisions et notes tout au long.
Donc les objectifs de la leçon sont premièrement d'augmenter le vocabulaire des enfants, deuxièmement les aider à visualiser les mots et à les écrire correctement dès le premier coup. Troisièmement, améliorer leur écriture et leur composition. Quatrièmement, les aider à former des habitudes de travail soignées et d'exactitude. Maintenant, la leçon. La première étape, laissez les enfants examiner 2 pages du livre Parables from Nature de Miss Getty pendant 7 à 8 minutes. Ces 2 pages ne doivent pas avoir été lues auparavant, mais les enfants doivent avoir un intérêt pour ce livre.
Probablement que ce qu'elle entend par là est que c'est un livre qu'ils ont déjà commencé à lire et que les enfants y sont attachés. Nous pouvons déduire de cette façon de faire que nous devons prendre un livre pour lequel les enfants ont un intérêt et qu'ils aimeraient regarder de plus près.
La deuxième étape maintenant, demandez aux enfants s'il y a des mots qu'ils n'ont jamais vus auparavant et écrivez-les au tableau en ajoutant des mots qui leur ressemblent, si possible comme bateau, gâteau, râteau. Et ce, afin de bien ancrer le mot dans leur esprit.
Mason ajoute dans son volume 1 que la dictée ne doit commencer que lorsque tous les enfants ont eu l'occasion de valider chaque mot pour lequel ils ont un doute. En fait, cette partie révision des mots peut être faite de plusieurs façons, un peu comme lors de l'apprentissage à la lecture. On peut l'écrire dans les airs, on peut acheter des mots qui riment et qui s'écrivent pareil, etc. Toutes les idées qu'on peut avoir. On travaille surtout la visualisation du mot dans sa tête, les yeux fermés, afin que l'enfant puisse l'écrire lors de la dictée.
La troisième étape, choisissez un court passage pris dans les deux pages choisies au départ et dictez-les distinctement et clairement. Non pas en le lisant un mot à la fois, mais phrase par phrase.
Pour Mason, on ne dictait pas la ponctuation dans une dictée. On laisse plutôt l'enfant la deviner dans notre récitation de la phrase. Enseigner la ponctuation devient donc logique et en contexte. Aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne répète pas la phrase une fois qu'elle est lue. Leur habitude d'attention est hyper importante ici.
On est toujours dans la troisième étape. Regardez leur cahier pendant que les enfants écrivent et s'ils font une erreur, couvrez-la aussitôt avec un morceau de papier autocollant afin qu'ils puissent réécrire le mot sans erreur et éviter ainsi d'en prendre une mauvaise image mentale.
Les rouleaux de liquide correcteur fonctionnent à merveille pour ce travail.
Et la quatrième et dernière étape, corriger en prenant note de leur travail soigné, de leur exactitude dans l'orthographe et de l'amélioration dans leur écriture. Donner les encouragements qui s'imposent. Et c'est la fin de la leçon.
Est-ce que vous croyez que ce genre de leçon est réaliste? C'est vraiment quelque chose de différent.
Ça me fait penser à des techniques qui commencent à être de plus en plus répandues, comme la phrase du jour, dictée sans faute, où on pousse les enfants à réfléchir sur ce qu'on va leur demander comme dictée, à poser des questions. C'est sûr que Charlotte va encore plus loin avec l'idée que les enfants l'ont devant les yeux et qu'ils l'étudient tout de suite avant de faire la dictée. Mais ça reste dans la même ligne directrice qu'on doit réfléchir à ce qu'on écrit.
Ce qui m'impressionne ici, c'est surtout le fait que les enfants doivent étudier deux pages, mais qu'ils ne sauront pas quelle phrase va être lue. Donc, dans ces deux pages-là, ils doivent être capables de dire « ce mot-là, je ne suis pas sûre, est-ce que vous pouvez l'écrire au tableau, moi je vais en trouver d'autres. » Mais il faut aussi se rappeler que les livres, dans le temps de Mason, n'avaient pas le même format que nos propres livres aujourd'hui. Oui. Donc, si vous prenez juste le temps de regarder sur Internet des livres des années du début du 20e siècle, en fait, c'était assez court, là, ce qu'il pouvait avoir dans deux pages. Je dirais que c'est quasiment l'équivalent d'une page pour nous présentement.
Oui, je dirais la même chose, dépendamment du format des livres aussi. Les livres étaient généralement de petits formats, là, des 4x5 ou des choses comme ça, des fois même plus petits.
Puis c'était dactylographié, non pas écrit, par ordinateur. Donc, la police, l'espace entre les lignes était différent aussi. Là.
Ou même imprimé à la presse. Notons aussi qu'on ne dit pas que les mots au tableau doivent être effacés. Donc, je ne sais pas si c'est un oubli dans la leçon ou si c'est vraiment volontaire que les enfants, s'ils ont un doute sur un mot, on les écrit au tableau puis ils pourront référer à ces mots-là sans problème là, durant la leçon de dictée.
C'est sûr que si on se fie à ces principes passés ou ces pratiques passées, l'enfant prenait une photo et ensuite ne le regardait plus. Mais d'un autre côté, quand c'était la copie, il pouvait référer. Donc, c'est une zone grise qu'on peut vous laisser juger par vous-même et adapter à votre propre enfant aussi.
Effectivement. Mason n'est pas tendre envers les pratiques de son temps. Après des années d'analyse de ce qui se faisait en classe, le bon comme le mauvais, et beaucoup de lectures variées, elle en est arrivée à pouvoir critiquer ce qui ne fonctionnait pas bien et à proposer ses propres principes et parfois ses propres pratiques. C'est le cas de la dictée. Voici ce qui, selon elle, est problématique.
La principale cause des erreurs en orthographe. Généralement, l'enseignante dicte un passage phrase par phrase. Elle le répète 3 ou 4 fois au travers des questions que lui posent les élèves. Chaque ligne du travail des élèves comporte 1 à 3 fautes d'orthographe. L'enseignante, essayant d'être consciencieuse, souligne les erreurs à l'encre rouge. Les élèves utilisent diverses méthodes pour corriger leurs erreurs. Ils peuvent échanger leur travail entre eux et noter le travail de leur père en corrigeant les erreurs, en recopiant les mots correctement écrits au tableau. Quelques enseignants ignorants obligent encore les élèves à copier chacune de leurs erreurs, à écrire 3 ou 4 fois les mots corrigés, à épeler ces mots et à les apprendre. Les enseignants s'étonnent pourtant de constater que malgré tous leurs laborieux efforts, les élèves continuent de faire les mêmes erreurs encore et encore.
Ces enseignants avaient évidemment la réussite de leurs élèves à cœur. Personne ne se donne autant de travail sans espérer des résultats concrets. Mais voici comment Mason explique ces erreurs répétées. La logique de l'orthographe. Mais la vérité est que la capacité d'épeler dépend de la capacité de la personne à voir le mot et en imprimer une image photographique dans son esprit. Ce procédé d'imprimer une photo dans sa tête est une compétence et une habitude qu'il faut développer chez l'enfant dès le début. Quand ils lisent le mot « chat », il faut leur apprendre à essayer de voir le mot les yeux fermés. Imprimer des mots sur la rétine semble être le seul moyen sûr de ne pas faire d'erreur en épelant un mot. Une fois qu'une erreur est commise et corrigée, il subsistera toujours un doute quant à savoir quelle image est la bonne orthographe et quelle est la mauvaise. La plupart d'entre nous ne sommes jamais vraiment sûrs si le mot « indépendance » s'écrit avec un « a » ou un « en », et ce, parce que nous avons vu les deux orthographes lorsque nous l'avons corrigé. Une fois que l'œil a vu un mot mal orthographié, l'image est définitivement imprimée. S'il y a aussi une image du mot orthographié correctement, nous ne serons jamais totalement sûrs de savoir quelle image est la bonne. C'est pourquoi la manière habituelle de faire des dictées garantit pratiquement les erreurs d'orthographe répétées. Chaque mot mal orthographié crée une image dans l'esprit que même l'orthographe correcte ne peut effacer. Il appartient donc à l'enseignant de prévenir les erreurs d'orthographe et, si une erreur est commise, de la cacher, pour ainsi dire, afin que l'impression ne soit pas figée.
C'est intense, ça demande beaucoup de temps, d'attention, mais c'est ce qu'elle recommandait.
Oui.
Voici donc maintenant quelques trucs pour la dictée. On peut choisir des passages provenant de livres de lecture sous le niveau de lecture de l'enfant. L'écriture suit la lecture. Et donc, puisque l'écriture est en développement, assurons-nous de leur donner des mots qu'ils sont capables de lire depuis quelques années et augmentons la difficulté graduellement.
Quand notre enfant nous dit qu'il ne connaît pas un mot ou qu'il ne se souvient plus comment l'écrire, on ne lui demande pas de faire un effort ou de deviner. On peut lui permettre de faire une ligne et de regarder le mot à nouveau à la fin de la dictée. Le but est que l'enfant ne puisse pas écrire une version erronée dans leur esprit.
On peut choisir de faire analyser le 2-3 pages de passage à l'étude pour dicter un jour et faire la dictée à un autre moment si la leçon s'étire ou s'il y a beaucoup de mots à l'étude.
Le fait de devoir surveiller toutes les dictées de nos enfants peut être quand même assez demandant pour un parent. Si on a plusieurs enfants, on peut toujours demander à nos enfants d'attendre ou bâtir notre horaire de façon à ce qu'on puisse être un à un avec chaque enfant pendant leur dictée. Mais on peut aussi toujours jumeler nos enfants deux par deux ou un plus vieux avec un plus jeune, puis les demander de s'entraider là, dans leur dictée.
Un va lire, l'autre va écrire.
Mm-hmm. Puis celui qui lit, peut-être le plus vieux, va pouvoir couvrir le mot si jamais le plus jeune a fait une erreur.
On travaille encore une fois la capacité d'attention parce que cet élève-là, cet enfant-là, va devoir être hyper rapide pour le cacher. Dans l'oral, ça ressemble à quoi? En forme 2, on parle de dictée, étude de passage 2 à 3 fois par semaine pour une longueur entre 10 et 20 minutes selon la capacité de votre enfant.
Mm-hmm. Pour les formes supérieures, on parle d'à peu près la même durée dans les quelques timetables de Charlotte Mason que nous trouvons, mais les passages peuvent être plus variés, incluant leur texte à l'étude pour l'actualité ou différents autres textes dans leur livre.
Si votre enfant ne lit pas encore bien en forme 2, ne soyez pas trop pressé de commencer la dictée. L'écriture est la suite de la lecture, comme on l'a dit précédemment, et si on va trop vite, votre enfant sera submergé et possiblement abattu, découragé, frustré, selon son caractère.
Par contre, on peut toujours faire des dictées de courtes phrases ou de mots dans le contexte des leçons de lecture. Donc, l'enfant va quand même être en train d'apprendre de l'orthographe sans nécessairement utiliser cette méthode-là d'étudier 2 pages mm-hmm. et d'avoir un passage dicté dans ces 2 pages-là.
Oui, puis on ne l'a pas mentionné, mais en forme 1, la dictée, il n'y en a pas de façon formelle, mais on peut faire la dictée de lettres mm-hmm. qu'ils vont avoir appris. Et puis si ça, c'est déjà trop élevé pour eux parce qu'ils ne se souviennent pas comment Monica Bridges faisait son beau D, on peut le mettre devant lui puis l'habituer à copier en l'ayant devant, progressivement en l'enlevant. Donc, mm-hmm. on peut travailler d'apprendre, de prendre une photo, de recopier ce qu'on voit dans notre tête graduellement en passant de la lettre au mot, aux phrases.
Oui, puis d'utiliser la même progression dans les dictées de lettres, de mots et de courtes phrases.
Et voici ce qui conclut notre épisode, mais non le sujet de l'apprentissage des langues que nous continuerons dans le prochain épisode. Nous y parlerons de la composition et de grammaire. Nous vous invitons à aller consulter les notes de l'épisode, à lire les volumes de Charlotte Mason et à continuer la discussion soit sur notre page Facebook, soit sur notre site web. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à commenter sous la publication de cet épisode pour que tous ensemble, nous puissions tenter d'y répondre. À très bientôt!